Je vous invite à la prière. Seigneur, accorde-nous les oreilles des disciples et un cœur qui reçoit et le désir de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 23. Je ne sais pas si nous pouvons la voir. Sinon, ce n'est pas grave. Alors, je lis donc. Oh, si je savais où le trouver, c'est-à-dire trouver Dieu, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre et je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Job 23, verset 3 à 5. Verset 3. Là, tu as 5 là. Verset 3, le retour, voilà. Ça, c'est la fin, du verset. Je reprends. Oh, si je savais où le trouver, c'est-à-dire Dieu, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre et je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. N'est-ce pas le soupir de l'âme de beaucoup de chrétiens au milieu de nous? Celui-ci, c'est un soupir tracé dans un livre de l'Ancien Testament, mais qui n'est rien d'autre que le soupir du patriarche Job. Mais qui est Job? Il était un homme riche dont la piété est soulignée par Dieu lui-même. Il vivait heureux au milieu de sa famille quand soudain, il se voit frappé par de terribles épreuves. Il se trouvait donc en pleine traversée de la vallée sombre des souffrances. Ce que nous appelons communément dans le langage théologique la vallée des pleurs, la vallée de Baca. Les orages arrivent soudainement, parfois dans la vie, sans qu'on s'y attende. Un diagnostic médical inquiétant, par exemple. Un licenciement professionnel qui nous laisse désemparés, avec les enfants en charge, des traites à payer. Que faire? Un deuil inattendu qui peuvent survenir et qui peut bouleverser l'équilibre d'une famille. Et que sais-je encore? D'où ce cri du tréfonds de son âme pour exprimer son angoisse, le pauvre Job. Et ce cri vient à quel moment? C'était à la suite des propos respectifs de trois de ses quatre amis qui était venu pour lui rendre visite et tenter de donner une explication au malheur qu'il est en train de traverser. Vous savez, il y a des théologiens, hein. Il y a des gens, parfois, quand vous êtes en difficulté, ils viennent, eux, avec leurs lunettes, te faire comprendre pour quelles raisons tu souffres autant. Ah oui, moi j'en ai connu là. Même si leur intention était meilleure, mais les moyens par lesquels ils étaient venus auprès de Job pour tenter, entre guillemets, de le reconforter, bien au contraire, ils sont venus pour l'enfoncer encore davantage. Mais sauf un. Ses amis, ils portent respectivement de noms très évocateurs. Leur nom dit long sur la personnalité des individus. Le premier s'appelle Bildad. Bildad signifie celui qui est enraciné dans la tradition. C'est que si ce qui t'est arrivé là, c'est que tu n'as pas observé exactement ce que tes pères ont fait. Ça fait avancer là. Hein. L'autre s'appelle Sophar. Sophar, il était considéré comme étant légaliste. C'est-à-dire, lui, il établit un lien direct entre les effets et les causes. On n'a jamais vu un innocent être secoué comme tu l'es. Si Si tu as été secoué de cette manière-là, c'est que sûrement tu as dû faire quelque chose. Waouh, ça fait avancer. Hein. Un autre, il s'appelle Eliphaz. Tu crois que Dieu ne regarde pas dans le noir? On te voit tout le temps faire des sacrifices pour tes enfants qui font la fête, au motif que s'ils commettent un péché, Dieu te pardonne. Mais si ce qui t'est arrivé là, à qui tu veux tromper toi? Examine toi-même et confesse tes péchés, Dieu te libérera. Ah, ça fait avancer. Hein. Mais il y a un quatrième. C'est un jeune homme, tout petit, le cadet de l'ensemble des quatre. Et si vous lisez bien le texte, il est passé au moins une semaine, il est là, il écoute les adultes. Il va se fâcher contre eux tous. Et il va dire une phrase qui est plus parlante. Et je m'excuse des personnes âgées au milieu de nous. Parce que ce qu'il a dit là, ça mérite d'être dit pour les jeunes. Il a dit que je pensais que le nombre d'années allait communiquer la sagesse. Mais vous êtes tous mes aînés ici. Mais ce qui est sorti de votre bouche ne montre pas que vous avez la sagesse. C'est dire que le nombre d'années ne communique pas la sagesse. La sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Et il s'appelle qui? Éliou. Et si vous décomposez son nom, vous trouvez la racine du mot Dieu dedans. Dieu. On s'achemine vers la solution de Job. Souvent, nombre de nos souffrances trouvent leur cause dans nos inconséquences. Ah oui, nos péchés. Parfois, les souffrances et les afflictions auxquelles l'enfant de Dieu est confronté sont permises par le Père pour atteindre un but que lui-même il s'est fixé. Parce que Dieu nous enseigne par sa parole, mais parfois il permet dans notre vie des épreuves pour que nous puissions porter les fruits de l'Esprit. Dieu va permettre dans ton environnement amical quelqu'un qui te casse les pieds pour t'aider à pardonner, pour t'aider à être patient, pour t'aider à être miséricordieux. Et Dieu ne fait jamais rien pour rien. Mais quelle que soit la densité de la douleur, nous finons toujours par nous retomber sur nos jambes. C'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Quelle que soit la douleur, quels que soient les degrés des épreuves, Dieu dans sa grâce, écoutez bien, il fera en sorte que vous retombiez sur vos pieds. Dieu ne permettra jamais que les épreuves vous dépassent et qu'ils vous détruisent. Si les épreuves vous détruisent, quel est le but finalement? D'après les amis de Job, Dieu est trop juste pour punir l'innocent. Autrement dit, c'est les péchés cachés de Job qui se manifestent contre lui. Mais en réalité, ce ne sont pas les propos accablants de ses amis qui lui font davantage de tort. Qu'est-ce qui fait du tort à Job? Derrière quoi il soupire? Parce qu'il n'arrive pas à faire le lien entre leur théorie là par rapport à ce qu'il vit. On dit de lui que Dieu est un Dieu d'amour. Mais lorsqu'il entend de voir ce que les gens racontent et ce que lui, il vit, non. Il n'y a aucun lien entre ce qu'il leur raconte. Ce qui le bouleverse, bien au contraire, c'est le silence assourdissant de Dieu. Ne vous est-il pas arrivé, parfois vous êtes devant une difficulté énorme et que vous criez à Dieu, il semble ne pas se manifester. C'est le calme complet. Ça vous est-il arrivé? Ah oui, moi ça m'est arrivé. Au point que je disais au fond de mon cœur à Dieu, je dis que voilà, je viens aujourd'hui à l'église et puisque tu ne veux pas répondre à mes besoins, je vais aller faire comme mes camarades aussi. Et tu me perdras. Mais il va trouver une manière juste et pertinente pour me répondre. Non seulement en exprimant ce que j'avais ressenti au fond de mon cœur, mais en me donnant la réponse. Il me dit que tu es comme une personne qui est en train d'escalader une montagne élevée. Là, tu as deux doigts d'être au-dessus du sommet pour avoir de l'air libre et regarder ce qui est de l'autre versant. Mais si tu retombes, tu recommences encore. comme il n'arrive pas à trouver une conclusion à ce que ses camarades l'ont dit, il a dit que voilà, il me reste une chose. Je vais aller plaider ma cause devant Dieu. Mais sauf, oh, si je savais là où il se trouvait, là où je savais où se trouvait son trône, j'allais me déplacer et plaider ma propre cause. Je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments comme un avocat qui défend. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à me répondre. Ce Dieu d'amour là. Si tel est ton cas ce matin, enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, l'Esprit de Dieu, comme Éliou qui parlait à Job, veut te rappeler qu'il y a deux côtés à la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus s'est introduite dans la vie des hommes pour séparer le monde en deux, pour séparer le cours de temps en deux, l'ancien et le nouveau. Cette croix de Christ marque le point de rupture entre l'ancienne alliance où l'homme reçoit la grâce de Dieu en fonction de son œuvre. Quand je fais et Dieu me bénit à cause de ce que je fais. Et la nouvelle alliance où je suis béni, pas à cause de ce que je fais, mais à cause de ce qu'un autre a déjà fait. Et qui est ce autre chose? C'est Jésus. Permettez-moi un regard en arrière. Dans l'ancienne alliance qui marque une période de dispensation, on appelle période de dispensation, c'est une période de mise à l'épreuve de l'homme par rapport à sa relation avec Dieu. Il y a des périodes où on est dans l'innocence, c'était la période d'Adam et Ève, avant que le péché soit introduit. Et lorsque le péché est introduit, Dieu fixe les conditions pour vivre avec lui. Et après, nous tombons dans la période de Noé, où Dieu encore établit une autre règle, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à Moïse et à Jésus. Dans l'ancienne alliance, la relation avec Dieu et son peuple est résumée par ce texte de Habacuc. Ce qui est des petits mots, le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Il est dit dans Habacuc chapitre 2, verset 4. Mais le juste vivra grâce à sa foi. Et j'insiste sur le mot sa foi. Quand il n'avait pas de foi, et il a offert à Dieu quelque chose que Dieu a refusé. On le sait plus tard. Mais il y a un qui a la foi, qui a offert à Dieu, et Dieu a accepté. Donc, Abel a été accepté à cause de sa foi à lui. Mais dans Romains, chapitre 1, verset 17, après que Jésus est venu accomplir son œuvre et que tout est fait, tout est accompli, il est écrit, il est dit ceci. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Là, on ne fait pas un acte pour faire la justice de Dieu, mais on est là pour recevoir la justice que Dieu accorde. Vous voyez la différence? Or, beaucoup continuent à faire pour pouvoir obtenir l'assentiment de Dieu. Or, beaucoup continuent à agir pour incliner le cœur de Dieu en leur faveur. Non. La justice que Dieu accorde, elle est reçue par la foi et rique par la foi, comme il est dit dans les Écritures. Voilà la différence. Le juste dans la nouvelle alliance vivra grâce à la foi. Là. La première, c'est sa foi, et là, c'est à la foi, bien défini, c'est-à-dire la foi en Jésus. Nous n'avons rien à y apporter. Quand nous avons cette foi, les ardoises lourdes de notre passé est effacée. Suivez-moi. Dieu ne nous punit pas selon nos fautes. Il permettra que nous en souffrions 10% pour nous amener à comprendre que quand on sème quelque chose de mauvais, on récolte. Car la Bible dit que Dieu ne nous punit pas selon nos péchés. Jésus a déjà payé le prix. Ça, c'est vraiment la puissance de la grâce que nous échappons tous. Ça nous échappe. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Dieu ne me bénit pas parce que je pose un acte qui soit positif. Dieu ne me bénit pas parce que je prie tous les jours. Dieu ne me bénit pas parce que je viens à l'église tous les jours. Dieu ne me bénit pas parce que je fais l'œuvre de bienfaisance tous les jours. Dieu me bénit parce que je suis en Christ. Serrez ça dans votre cœur. Même si vous tombiez, même si vous faites des erreurs, même si vous commettez des fautes devant Dieu, Dieu ne compte pas vos fautes. Vous êtes en Jésus. Le sang de Christ est plus puissant pour absorber tous vos péchés. Les ondes négatives qui perturbent votre vie. Il y a des gens, parfois, quand ils marchent dans la vie, il y a comme une sorte d'ombre qui entoure leur vie. Ils commencent une chose comme si on dit une sorte d'ombre qui vient. Ça les empêche de regarder la clarté de Dieu. Et leur vie est complètement rétrécie. Mais Jésus est venu pour briser, pour ouvrir la porte du ciel. Savez-vous que le voile qui sépare la présence de Dieu du monde a été déchiré lorsque Jésus a été mort à la croix? Pour que la présence de Dieu soit rendue accessible. On n'a pas besoin de passer par un intermédiaire pour arriver à Dieu. On y va directement dans sa présence. On plaide son cause. Mais Jésus l'a déjà fait. La parole de Somme dira, bienheureux les hommes, bienheureux les femmes qui ont trouvé leur force en Dieu. Dans leur cœur, malgré les difficultés, ils trouvent un chemin tout tracé. Waouh! Quand on traverse la vallée des pleurs pour voir le bout du tunnel, nous sommes invités à mettre en perspective, en Christ, trois réalités que je m'en vais vous le décliner. Ok? Lorsqu'on est en train de traverser une période difficile, il faut s'accrocher à quelque chose. Je me souviens à l'époque, quand j'étais encore plus jeune, j'ai été emporté par un courant d'eau tellement puissant que je me voyais déjà partir. Je me rappelle la date, 19 septembre 1976. Il m'est arrivé qu'il y a un tronc d'arbre qui a traversé la rivière. J'ai attrapé le tronc d'arbre, je me dis, ça, c'est mon salut. J'ai attrapé le tronc d'arbre jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. Et quand on est dans le creux de la vague, il faut retrouver un tronc d'arbre auquel s'accrocher. Il y en a trois, pour votre compréhension. J'en cite trois, que je vais développer rapidement. Premièrement, Hébreux chapitre 2, verset 13, c'est Jésus qui parle. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi, Jésus, et les enfants que Dieu m'a donnés. Qui sont les enfants que Dieu lui a donnés? C'est vous et moi. Jésus, comme un ingénieur qui a fini son travail, le tout accompli, est venu se présenter devant le Père. Il a dit, Seigneur, j'ai fini le travail. Voici les enfants que tu m'as donnés. Jésus s'est introduit dans la présence de Dieu, pas tout seul. Il s'est introduit dans la présence de Dieu avec qui? Avec vous, avec moi, nous tous. Et il va dire à son Père, les voici. Deuxième texte, toujours dans le livre des Hébreux. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Voilà pourquoi il peut nous sauver valablement, Jésus. La phrase continue, et c'est celle-là qui est la plus importante. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Waouh ! Vous savez, Job, d'abord c'est le premier livre de l'Ancien Testament. Ce n'est pas Genèse, c'est Job. Job n'avait pas de référence. Vous et moi, lorsque nous lisons ce texte, nous avons des références. Nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons le Nouveau Testament, nous savons au moins nous y positionner, n'est-ce pas? Mais Job n'avait pas de référence. Rien n'a été écrit. C'est pour ça qu'il est complètement perdu. Si je pouvais savoir où est-ce qu'il se trouve, si je pouvais savoir où est son trône, je plaiderais ma cause. Mais regarde, la réponse, elle est là. Approchons-nous, donc avec assurance, du trône que Job cherchait. Parfois, on a envie de vivre dans le passé, hein. Je vois, il y a des gens qui disent que si j'étais comme Abraham, si j'étais comme Jacob le tricheur. Non, on est mieux là. On a des références. Premièrement, ce qu'il faut retenir, la position de Christ en tant que souverain sacrificateur. Pas sacrificateur seulement. Le sacrificateur, il est celui qui se tient comme un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il parle des hommes à Dieu. Vous me suivez là? Dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Le prophète, lui, il parle de Dieu aux hommes. Et souvent, lorsque nous sommes en service, nous faisons les deux. Nous prions pour recevoir le fardeau qui est celui de votre cœur afin d'adapter le message, pour vous parler de votre cas à Dieu. Et en même temps que nous sommes en service, nous avons parfois, et moi je parle de moi, je ne parle pas des autres, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le reçoivent, mais moi je reçois parfois des flashs où je prépare quelque chose, je m'aperçois que quelqu'un prend ma bouche, ma langue et est en train de l'orienter vers des choses différentes. Et ce que je dis correspond à votre vie, correspond à votre vie. Vous allez vous dire dans votre cœur, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? A-t-il vu ma vue? Est-ce qu'il a fait des enquêtes sur moi? Non, c'est de ma règle prophétique. Je dis quelque chose. Si vous le prenez comme parole de Dieu, vous êtes délivré parce qu'il y a une puissance qui est derrière. Mais si vous le rejetez, mais vous compliquez votre vie. Et donc Jésus ici apparaît comme un sacrificateur, mais le souverain. Alors, ça appelle quelques explications. Culture biblique. Qu'est-ce que le souverain sacrificateur? Dans le parvis de Dieu, dans le tabernacle, il y a le parvis, il y a des niveaux. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ceux qui ont suivi le séminaire de Frédéric Travé comprennent ça très bien. Dans le parvis, il y a des sacrificateurs qui travaillent. Mais dans le lieu très saint, parce qu'il y a le lieu saint et le lieu très saint où se trouve la présence de Dieu. C'est le souverain sacrificateur qui rentre dans ce lieu une seule fois par an. Et les Juifs, ils célèbrent cette fête qu'on appelle la fête du grand, Yom Kippour. Et c'est à ce niveau-là que le souverain sacrificateur, il prend le pot du sang des victimes qui avaient été versées pour demander le pardon à Dieu. Et il prend le pot, il rentre dans le lieu très saint et il verse sur l'arche de l'Alliance et la présence de Dieu se manifeste sous forme de feu. Je le fais court là, ça demande une explication, mais comprenez, pour que vous compreniez ce que Jésus est en train de faire là. Mais à l'époque, ce sont des humains comme vous et moi, captifs du péché. Mais il faut qu'il fasse un sacrifice pour demander pardon à Dieu, qu'il soit pur avant de rentrer dans la présence du Seigneur. Et quand il veut rentrer dans le lieu très saint, par précaution, les gens ont attaché à leur cheville une sorte de corde. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque s'il ne s'est pas bien purifié et que la présence de Dieu le fasse mourir, on le tire. Personne n'ose venir dans la présence de Dieu. La pureté de Dieu est tellement que le moindre péché, Dieu ne tolère pas. Mais maintenant, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu avec nos imperfections. On n'est pas mort. Voyez-vous, quelle grâce! Mais cela ne signifie pas que Dieu nous encourage à continuer à pécher, non! Et donc, Jésus apparaît ici comme le souverain sacrificateur. Mais sauf que, dans ce contexte, Jésus ne vient pas avec une victime. Parce que dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur, il porte le sang d'une victime qui sont des animaux déjà morts, les agneaux déjà tués. Mais Jésus, il va faire les deux. Il va être l'agneau de Dieu qui a été immolé pour enlever le péché. Et il sera en même temps le souverain sacrificateur. Les deux en une seule. Deux en un. Et Jésus va rentrer dans la présence de Dieu. Pour vous et moi. Si nous avons ça à l'esprit, nous passons dans la présence de Dieu à travers Jésus. Et nous n'allons pas hésiter un seul instant de nous revêtir de sa présence. Car c'est cette présence qui rend Dieu favorable à notre égard. C'est pourquoi on appelle le terme propitiatoire, propice, favorable. Dieu est rendu favorable à notre égard à cause de Jésus. Ne mettez pas Christ de côté, mes bien-aimés. Quel superbe Seigneur! Quel superbe Seigneur! Il n'a jamais rien demandé pour lui. Il fait ça pas pour lui. Il avait la gloire de Dieu, mais il a quitté sa gloire pour venir nous chercher, mes bien-aimés. Donc notre position devant le Père dépend du sang de Jésus. Je vais aller encore beaucoup plus loin. Où est Jésus? Le lieu où se trouve Jésus est le lieu où moi je me trouve. Ça vous le savez? Dieu a fait Jésus-Christ, Christ est Seigneur. Dans le livre des Éphésiens, il a élevé au-dessus des esprits impurs, des autorités, des dominations, des principautés. Et il a fait asseoir Jésus à la droite de Dieu. La droite de Dieu n'est pas le côté droit, c'est le centre de l'autorité de Dieu. Où tout est soumis à Jésus. Souvenez-vous, quand il a dit au Père, dans Hébreux chapitre 2, là, « Seigneur, me voici et les enfants que tu m'as. » Et lorsque Jésus se présente devant Dieu, vous êtes où? Nous sommes avec lui dans les lieux élevés. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors, je vais écorcher un peu. Lorsque nous acceptons Jésus simplement comme sauveur, c'est vrai que nous avons le bénéfice de ce qu'il accomplit. Mais nous manquons d'autorité contre les puissances des ténèbres. C'est à partir du moment où nous aurons fait Jésus sauveur et Seigneur, parce que Seigneur, c'est lui qui est au-dessus de nous, et nous recevons son autorité déléguée. Alors là, les puissances impures ne résistent pas. Ils fuient devant nous. Et notre problème à nous, beaucoup ici, c'est que nous recevons Jésus comme sauveur et Seigneur et nous dormons. Le salut est déjà acquis. Et le reste, ça ne nous intéresse pas. Or, le monde voit à travers de nous l'image de Dieu, la couleur de Dieu. Comme mon épouse l'a lu tout à l'heure, Dieu veut qu'au travers de nous, nous puissions être des modèles. Le monde est en train de chercher la révélation des fils de Dieu. Mais qui sont les fils de Dieu? C'est vous et moi. Et la lumière de Dieu en nous permet au monde de voir Jésus au travers de nous. Vous êtes censés être les révélations des fils de Dieu. Ne mettez pas la lumière sous le boisseau. Et au travers de nous, nous pouvons communiquer l'évangile de Jésus, parler de Jésus autour de nous. Il n'y en avait que 12 à l'époque, ils ont bouleversé la terre. On est plus de 12 aujourd'hui. Employons-nous à annoncer Jésus. Invitez les gens à venir à l'église peut-être, même si ce n'est pas l'église, mais invitez-les dans des activités qui sont les vôtres. Parlez d'autre chose que de la foi tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle de Jésus du premier coup. Commencez à sortir avec eux, allez vous promener, marcher, parler de tout et de rien, petit à petit, vous annoncez l'évangile. J'avais envie de le faire, mais si je prends un micro, je me mets dehors à tête d'annoncer l'évangile, la police viendra m'arrêter pour tapage à l'ordre public. Mais annoncer l'évangile de manière individualisée, par le relationnel. Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu que vous ne pouvez pas donner? On a beaucoup reçu là. Voilà, je m'arrête. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, alors je crois que l'essentiel est déjà dit. Sinon, un autre élément, c'est lequel? Il faut avoir présent à l'esprit le trône de la grâce divine. Ah, super. On peut complètement être désorienté par les tourbillons des épreuves et des contrariétés. Mais Dieu connaît nos vies. Allons donc avec assurance au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être secourus dans nos besoins. La réponse est donnée à Job. Si je savais là où il se trouvait, je m'y rendrais, je plaiderais ma cause. Mais voilà, il a montré le chemin. Allez devant le trône de la grâce de Dieu et plaidez votre cas. Et votre cas a déjà été plaidé par le Christ. Mettez-vous au bénéfice de ce que Jésus a déjà accompli. Et vous voyez bien que Dieu a fait les choses meilleures. Amen.